13h33, de retour à l'émission pour un Québec apprenant ce mercredi 9 janvier. Alors, après avoir parlé de la reconnaissance des acquis et des compétences dans le réseau des commissions scolaires et des collèges de Montréal, on va maintenant s'attaquer au milieu du travail, à ce qui est offert donc aux travailleurs et travailleuses dans les associations syndicales et les comités sectoriels de main-d'œuvre. Pour en parler, je suis maintenant en compagnie de M. Claude Bégin, qui est conseiller syndical à la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, au module des relations de travail. Monsieur Bégin, bonjour.
Bonjour.
Et Monsieur Christian Gendron, directeur général par intérim du comité sectoriel de main-d'œuvre communication graphique. Monsieur Gendron, bonjour.
Bonjour.
Alors, je débuterai, avec Monsieur Bégin de la CSN. J'aimerais d'abord vous entendre sur un premier point, c'est que quand on parle de reconnaissance des acquis, des compétences en milieu de travail, bien sûr, il y a la reconnaissance officielle, formelle, les attestations de connaissances. On en discutera avec Monsieur Gendron dans quelques instants. Mais il y a aussi tout l'aspect informel qui existe déjà en termes de reconnaissance dans les entreprises.
Oui, historiquement, c'est toujours fait de la reconnaissance en milieu de travail. Je prends pour exemple quelqu'un qui obtient un nouveau poste. Souvent, s'il y a plusieurs années d'expérience dans l'entreprise, il va acquérir différentes compétences qui vont être mesurées lors du moment qu'il va avoir le poste. Donc, il y a une période d'évaluation et là, on va évaluer les compétences qu'il obtient et souvent, il va obtenir le poste. Donc, il n'y a pas cette reconnaissance de compétences n'est pas nécessairement formelle, officialisée par des diplômes ou d'autres formes, sauf que dans le milieu de travail, la reconnaissance va être acquise dans le milieu de travail. Donc, il y a aussi beaucoup d'apprentissage, de formation qui se fait de façon informelle, sur la pratique du métier. Donc, il y a toute cette forme
peut-être mettre moins de pression sur les épaules d'un employé quand il ne sait pas ou quand ce n'est pas formel, ce qui fait que peut-être certaines attestations plus formelles peuvent des fois effrayer un petit peu les employés. Est-ce que vous l'observez, vous, que les gens, des fois, sont un peu réticents à faire la reconnaissance formelle?
Cette réticence-là, oui, elle existe, mais souvent par méconnaissance du processus de reconnaissance, parce que pour plusieurs travailleurs, cette reconnaissance, dans son esprit, c'est de retourner à l'école, c'est de retourner passer des examens, alors que ce que M. Gendron va en parler un peu plus tantôt, c'est il y a tout un processus qui se fait à l'interne, surtout au niveau des normes reconnues professionnellement dans les entreprises. Donc, souvent, la reconnaissance informelle qui a été faite par l'entreprise peut être officialisée dans un processus ultérieur, plus formel, soit au niveau de des programmes d'enseignement ou par les normes professionnelles. Ce qui fait que je pense que de valoriser la reconnaissance informelle est la première étape pour convaincre les travailleurs d'aller vers le formel et une reconnaissance pour obtenir une certification ou une attestation. Donc, je pense qu'il faut démystifier auprès des travailleurs ce rôle important de la reconnaissance qui permet après aller à de la formation et de la reconnaissance.
Et même cette formation formelle ne devrait pas faire aussi peur parce que finalement, comme c'est dans le domaine que les gens connaissent le mieux, souvent ils y travaillent depuis, on en parlait tout à l'heure, depuis 10, 15, voire 20 et plus, 20 ans. Donc, avec M. Gendron, vous, au comité sectoriel communication graphique, vous faites donc cette reconnaissance, comme on pourrait dire, formelle d'attestation des connaissances et des acquis. Comment ça se passe chez vous quand c'est d'abord l'employé qui vient vous voir pour faire cette reconnaissance?
Bien, comme M. Bégin disait tout à l'heure, il y a deux manières. Il y a l'employé et l'employeur. Au niveau de l'employeur, c'est vraiment important de s'assurer que lorsque l'employeur veut implanter une politique, un système de reconnaissance pour l'ensemble de ses employés, de bien présenter ce système-là, de ne pas arriver justement en l'imposant parce que c'est volontaire de la part justement des employés. Donc, c'est important, si un syndicat de l'impliquer dans le processus, de bien expliquer le tout, vraiment d'informer les gens c'est quoi le processus en tant que tel. Donc, comme je disais, ça s'adresse autant aux personnes en emploi. Les personnes sans emploi à ce moment-là, c'est pas le même style. C'est un autre système, mais c'est globalement, ça revient aux mêmes choses. Donc, la manière que ça fonctionne concrètement, comme M. Bégin disait, c'est un processus formel dans le sens que c'est un processus officiel de l'industrie dans lequel on identifie, on évalue et on confirme les compétences acquises à travers l'expérience professionnelle d'un employé et puis tout ça dans l'exercice de ses fonctions de travail. Donc, justement, l'évaluation se fait en trois étapes. La première étape, c'est une rencontre avec la personne. On lui explique c'est quoi, premièrement. On lui fait également un genre d'entrevue pré-entrevue, si on pourrait dire. Donc, on regarde avec lui si, premièrement, ça répond à ses besoins, parce que pour certaines personnes, c'est pas le bon système. Et puis, on regarde également si la personne a les critères nécessaires. Donc, dans notre secteur, nous, ça prend un minimum de 2 années d'expérience pour pouvoir faire la reconnaissance des compétences. Par la suite, il y a un examen oral qui se fait avec un expert de métier, qui dure environ 2 heures de temps. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est oral dans le sens où on a fait des tests précédemment, et puis par écrit, il y en a beaucoup avec le stress, tout ça, qui sont pas en mesure de répondre correctement. Donc, en ayant un expert de métier qui, premièrement, va utiliser les termes du milieu, la personne est plus en confiance, donc c'est plus simple pour elle. Et puis, si la personne a réussi son examen théorique, par la suite, une observation en situation de travail, toujours avec le même expert de métier. Donc, si la personne est en emploi, ben ça se fait sur son équipement. Si la personne est sans emploi, à ce moment-là, on va soit en rarement en entreprise, mais plus souvent, soit dans les collèges NC, au collège NC qu'à l'Institut de communication graphique.
Dans des centres de formation.
Dans des centres de formation, ouais. Effectivement.
Et ça se fait assez rapidement, tout ce processus d'évaluation, ça s'échelonne sur, on parle de semaines ou de quelques jours?
Bien, dépendamment de la personne, il y a des personnes qui ont développé une grande polyvalence, donc ont plusieurs métiers. Mais en général, c'est possible de faire un métier en une journée. Donc, c'est sûr que la pré-entrevue, ça fait une journée différente, mais par la suite, tout le procédé se fait là, en une journée. On a eu dernièrement où la personne a été évaluée sur 4 équipements, donc ça a duré sur environ 1 semaine et demie. Mais à ce moment-là, ça dépend des disponibilités de la personne en tant que telle.
Et il y a quelques instants, M. Gendron, vous parliez donc de ce partenariat important entre l'entreprise et le syndicat, s'il y en a un dans l'entreprise. Et bon, M. Bégin, à la CSN, comment est-ce que vous travaillez à encourager tous ces processus de reconnaissance?
Donc, bien évidemment, on a, pour encourager, on a développé un outil à la CSN pour permettre d'informer les syndicats sur les différents moyens pour que on fasse de la reconnaissance ou qu'on fasse de la formation auprès de leurs travailleurs. Donc, il y a cet outil-là. Il y a aussi toujours des campagnes de sensibilisation qu'on fait, mais je vous cacherai pas que c'est pas nécessairement la priorité des syndicats. Souvent, c'est les problèmes de relations de travail, les problèmes de négociation, de santé et sécurité qui souvent prennent le pas. Mais je vous dirais, actuellement, à la CSN, on a comme, pour les prochaines années, on veut mettre l'accent sur la formation, sur la reconnaissance, parce que c'est un outil important pour, souvent on parle, c'est peut-être bizarre de le dire à partir d'un syndicaliste, qu'on parle de productivité, mais je pense que si on veut garder nos emplois, il faut qu'on soit compétitif, et être compétitif, il faut former nos travailleurs, il faut qu'ils soient le plus compétent, et ça, je pense que la capacité est là, c'est juste de permettre aux travailleurs d'avoir la formation, de les former et faire de la reconnaissance aussi des compétences qu'ils ont. Donc, je pense qu'il faut, ça passe par là, si on veut.
Donc, en faire la promotion autant chez les employés que aussi chez les employeurs pour
autant
leur dire
que employeurs,
ça va être bénéfique pour leur entreprise.
Parce que, si vous me permettez, un des constats qu'on fait, c'est que la grande entreprise n'en fait de la formation, n'en fait de la reconnaissance. Ça, c'est pas là qu'est le problème. Le problème est dans la petite et moyenne entreprise. Et quand je dis ça, c'est pas qu'il y a de la mauvaise volonté de leur part. Souvent, c'est le manque de ressources. Des petites entreprises de 5 à 10 personnes, mettre des ressources en formation, en reconnaissance, c'est très difficile. Sinon, il faut qu'ils mettent de côté la production. Et ça peut mettre en péril l'entreprise. Donc, il faut réfléchir.
Donc, qu'on peut faire pour ces petites entreprises?
Est-ce qu'il y a des solutions possibles? Peut-être répondre de notre côté. Oui. Nous, la manière que ça fonctionne, c'est on s'adapte à la production et au type d'entreprise. Donc, dans les plus grandes, effectivement, c'est plus facile de sortir des précis, par exemple, de la production. Mais dans le cas où c'est impossible, nous, on peut faire les entrevues théoriques de soir. Et puis, l'évaluation pratique se fait donc durant les heures de travail de la personne. Donc,
pour ne pas arrêter la production ou...
Effectivement. On s'adapte, autrement dit, à la réalité. On n'a pas le choix parce que, comme monsieur disait tout à l'heure, la productivité, c'est important pour les syndicats, mais encore plus pour les entreprises. La reconnaissance n'est pas nécessairement une priorité pour eux parce que souvent, ils ont des deadlines très, très serrés. Donc, il faut vraiment essayer de rentrer dans leur réalité à ce niveau-là.
Et la formation va finalement aller à plus tard pour eux, comme vous le disiez, M. Bégin, dans leur priorité. C'est pas ce qui est le numéro un sur la liste, mais vous parliez de formation. Oui, il y a l'évaluation en milieu de travail, mais comme par exemple au comité sectoriel, quand vous avez fait cette évaluation, des fois, il y a des gens qui pourraient avoir besoin d'une certaine compétence en plus. Vous les référez vers des programmes de formation précis?
Bien, effectivement, dans le sens où une fois que l'évaluation a été faite, ça se termine pas là. Si la personne maîtrise l'ensemble des compétences, par la suite, on peut émettre un certificat certains cas. Mais même les personnes qui sont hyper compétentes ont toujours des petites faiblesses ou des choses à améliorer. Donc, on peut leur recommander soit des formations sur mesure ou des formations qui existent déjà. Dans le cas des personnes qui, malheureusement, n'ont pas... par exemple, ne maîtrisent pas certaines compétences, on peut leur référer soit le programme d'apprentissage en milieu de travail, qui est une bonne formule, sinon également les formations qui sont disponibles, encore une fois, sur mesure. Nous, on peut également leur référer des gens. Donc, ça peut, ça répond effectivement aux besoins. Parce que, comme M. Bégin disait, c'est important, oui, de faire la reconnaissance, mais il faut s'en servir par après pour, autrement dit, déterminer les vrais besoins de formation, pour pas faire la formation juste pour dire qu'on en fait. Donc, avec la reconnaissance, ça, c'est vraiment le besoin principal et ça augmente la productivité des entreprises. Donc, tout va pour le mieux par la suite. Parfait.
Claude Bégin, oui, allez-y.
Non,
ça... non, j'en dis que je voulais intervenir. Mais sinon, pour M. Bégin, oui, justement, vous qui travaillez donc à la CSN avec cette, entre autres, la reconnaissance des acquis, quels sont vos défis là, pour les prochaines années? On ne va pas y aller dans les mois, mais les prochaines années chez vous?
Ben, je dirais les défis, c'est de conscientiser les syndicats de faire une priorité de la formation. Que ça soit un outil autant que de la santé et sécurité, que la formation soit un outil et qu'ils participent, qu'ils mettent en place des mécanismes pour participer avec l'employeur à des plans de formation et ce qui permet, ce qui faciliterait la participation des travailleurs.
Et pour les aider, vous avez justement développé une petite brochure, c'est le développement et la reconnaissance des compétences, justement. Est-ce que ça, c'est disponible, vous la distribuez aux employeurs, aux syndicats?
On la distribue aux syndicats. Elle est disponible gratuitement sur le site de la CSC. Sous l'onglet documentation, donc elle est disponible gratuitement.
Donc une petite brochure accompagnée d'un DVD également.
Malheureusement, pour d'aller pour sur le site, il n'y a pas le DVD, mais au moins la brochure.
Donc allez sur le site de la CSN, www.csn.qc.ca pour avoir plus de renseignements aussi sur le développement et la reconnaissance des compétences. Sinon, au comité sectoriel, on peut vous rejoindre en ligne, j'imagine, comme tout le monde.
Nous avons un site communicationgraphique.org au pluriel. On a également une section dédiée à la reconnaissance des compétences. Donc, autant pour les employeurs que pour les employés, l'ensemble des informations s'y trouve.
communicationgraphique.org. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir parlé brièvement. Oui, ce sont des pistes qu'on lance aujourd'hui pour donc la reconnaissance acquis compétences en milieu de travail. Je rappelle, on avait Claude Bégin, conseiller syndical à la CSN au module des relations de travail, et Christian Gendron, qui est le directeur général par intérim du comité sectoriel de main-d'œuvre communication graphique. Merci beaucoup.
Merci.
Nous voilà déjà rendus au dernier segment de cette émission pour un Québec apprenant consacré aujourd'hui à la reconnaissance des acquis et des compétences. On a parlé un peu de l'historique de cette notion avec Rachel Bellil dans le premier segment et elle avait mentionné rapidement ce qu'étaient les défis qui nous attendaient au cours des prochaines années. Elle nous a aussi situé le Québec par rapport au reste du monde et on va aller un peu plus loin donc dans cette vision globale avec cette fois-ci M. Guy Fortier qui est le directeur général de compétences Montréal, qui est l'équivalent du CERACIM, mais pour le réseau collégial à Montréal. Monsieur Fortier, bonjour.
Bonjour.
Donc, dans un premier temps, pourriez-vous nous décrire là, rapidement les grandes tendances dans le monde? On parle de tendances mondiales en termes de reconnaissance des acquis et des compétences.
Ben, écoutez, actuellement, au niveau, si on pourrait dire des pays membres, par exemple, de l'UNESCO, des pays européens, l'Asie, les zones Asie et tout ça, il y a vraiment une volonté d'intégrer, si vous voulez, la reconnaissance, la validation, l'accréditation. C'est peut-être dans un tout au niveau de stratégie nationale d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, c'est certain que quand on parle d'apprentissage tout au long de la vie, ce qui mis de l'avant, c'est que ces systèmes-là doivent être bâtis, si vous voulez, sur une approche de la reconnaissance, de la validation et de l'accréditation des acquis. Donc, ce n'est pas à part, c'est pas un appendice, c'est un fondement sur lequel on bâtit des stratégies. Donc, ça, c'est un peu différent parce que jusqu'à maintenant, au Québec et où ce qu'on connaît plus, les gens ont mis, si vous voulez, un système en place qui est un peu en parallèle, qui est un peu... Et toutes les connexions sont pas faites. Alors, il y a un éclatement, si vous voulez, très important du dossier, la formation générale des adultes d'un bord, la formation professionnelle d'un autre côté, la formation technique au collégial d'un autre côté, les ordres professionnels, les universités, les comités sectoriels de main-d'œuvre. Et évidemment, on travaille ces organismes-là un peu en silo. Hein? Et ça, c'est bien connu depuis des années. On essaie de développer davantage de synergies pour se donner une perspective nationale. Et c'est là-dessus que la plupart des grands pays actuellement travaillent, c'est d'arrimer leur système de qualification et de l'intégrer à l'intérieur d'une politique plus large d'apprentissage tout au long de la vie, ce qu'on n'a pas tout à fait réalisé encore au Québec.
Et ce grand éclatement dont vous parliez est arrivé vraiment dans les dernières années, tout juste récemment?
C'est arrivé en même temps que la préoccupation. Les pays sont préoccupés par la mobilité de la main-d'œuvre, par l'arrivée massive de personnes immigrantes, les accords de libre-échange entre les pays. Donc, on a besoin de se doter comme société d'un système qui favorise la mobilité des personnes. Et dans ce sens-là, il y a comme une question d'équivalence entre les diplômes obtenus à l'étranger, les systèmes de qualification qui sont dans les milieux de travail, les systèmes, si vous voulez, de reconnaissance qui sont dans le milieu formel, que ce soit institutionnel, universitaire, collégial ou secondaire. Alors, tous ces systèmes-là, dans le fond, se sont développés en eux-mêmes pour répondre à des préoccupations de, justement, de mobilité, de favoriser, dans le fond, la croissance, un peu la productivité, faire en sorte que quelqu'un qui quitte le Québec puis qui s'en va en Alberta puisse travailler là-bas, mais à plus forte raison que quelqu'un qui quitte l'Afrique puis qui s'en vient travailler ici puisse accéder, dans le fond, à du travail et avoir un système dans lequel les gens se reconnaissent un petit peu, c'est-à-dire qu'on est capable de lire aisément ce que les personnes sont en mesure de faire, les qualifications qu'elles possèdent, et qu'on est capable de les mettre à contribution.
Et d'utiliser aussi au maximum le potentiel de main-d'œuvre qu'on a.
Et d'utiliser au maximum le potentiel de main-d'œuvre qui est disponible au niveau des pays, et aussi faire en sorte que les personnes se voient, dans le fond, reconnaître comme citoyens à part entière dans une société, autant comme travailleurs que comme famille ou comme au niveau communautaire, etc. Donc, c'est des systèmes qui vont aider à prendre une place, si vous voulez, à l'intérieur de la société.
Donc, ça touche beaucoup les gens qui sont mobiles, comme vous le disiez, qui changent de pays, la reconnaissance des acquis qui sont d'ailleurs pour les implanter dans leur nouveau milieu de vie.
C'est un volet important.
C'est un des volets. Sinon, l'apprentissage tout au long de la vie, c'est quelque chose sur lequel on doit miser pour les prochaines années.
Quand on dit que la reconnaissance, c'est le fond, c'est-à-dire que les systèmes d'éducation des adultes qui se développent doivent prendre en compte les acquis et les compétences que les personnes maîtrisent déjà. C'est un fondement. Quand on parle d'un fondement, c'est-à-dire que ce qu'on développe comme système, comme offre de service, comme programme, doit intégrer cette dimension-là dans tous les aspects, dans le fond, de l'activité d'éducation des adultes. À Montréal, on essaie actuellement, avec le CRS, CIRACIM, Compétences Montréal, on regroupe les 12 collèges, CIRACIM, les commissions scolaires. On travaille aussi avec un autre organisme qui s'appelle Certifié Compétent, qui est une porte d'entrée pour la qualification, les certificats de qualification dont on parlait tout à l'heure avec les comités sectoriels. On essaie de regrouper des services, un peu d'information pour favoriser l'accessibilité. Quelqu'un qui arrive à Montréal, qui a besoin d'avoir une qualification pour faciliter son insertion ici à Montréal. Il s'adresse où? Il fait quoi? Qui est au courant de tout ça? Alors, on travaille la mise en œuvre d'un guichet actuellement qu'on appelle un guichet unique. On a développé un portail qu'on appelle le portail de la reconnaissance. Donc, quelqu'un va sur Google, fait le portail de la reconnaissance.org, arrive dans le le fond, la tentative qui est faite actuellement, c'est d'intégrer sous une même bannière, dans le fond, l'ensemble des services qui sont disponibles à Montréal, parce qu'à Montréal particulièrement, dans le fond, il y a une offre qui est assez abondante, mais qui est difficile d'accès. Et ça, c'est un volet. Et l'autre volet, c'est de sensibiliser, de faire en sorte que les institutions, que ce soit collégiales, commissions scolaires ou même universités, Rachel Bélin en parlait, les comités sectoriels, les syndicats, harnache un peu ce problème-là et s'en préoccupe et l'intègre dans leur planification ou en fasse vraiment un outil et dans le fond, de façon à se donner une vision par rapport au développement.
Et là, bon, vous parlez beaucoup de la part des organismes qui travaillent, vous parlez de diffusion de l'information, oui, de la disponibilité, l'accès, mais est-ce qu'il y a aussi du travail à faire du côté des individus eux-mêmes, des employés, pour un peu la mentalité de dire que c'est important de faire de la formation continue tout au long de notre vie, parce que l'apprentissage tout au long de la vie, on peut le désirer pour les gens, mais est-ce que eux-mêmes, est-ce qu'on est rendu, par exemple, au Québec, à ce que les gens sont ouverts à l'apprentissage continu?
Bien, je pense qu'on le fait spontanément, peut-être sans en être conscient. C'est-à-dire qu'une personne qui occupe un poste, peu importe le poste qu'elle occupe, devrait, en tout cas si elle ne l'est pas, devrait être en processus d'amélioration continue. Quand on parle d'un processus d'amélioration continue, c'est qu'on vise, dans le fond, à compléter les compétences qui nous manquent, on vise à être à jour, et on le fait de toutes sortes de façons. Aujourd'hui, il n'y a pas juste le banc d'école, et c'est le propos un peu du thème de la journée. Il n'y a pas juste les bancs d'école pour apprendre. Les gens passent leur journée sur les médias sociaux, à lire des journaux. Je pense que l'accès maintenant qu'on a à des mécanismes qui peuvent favoriser, dans le fond, notre développement personnel et professionnel sont plus nombreux qu'on n'a jamais été. Puis je pense que c'est ça qui va arriver au 21e siècle. On commence le 21e siècle, là.
Et les gens changent beaucoup plus.
On y est depuis 13 ans, puis on a encore de la difficulté un peu à positionner ça, mais il reste que si on fait une projection pour les prochaines années au 21e siècle, l'accès à la formation, et quand on dit accès à la formation, c'est dans le sens large, va devenir, dans le fond, du quotidien. On va être constamment en situation d'apprentissage, et si on veut, dans le fond, se doter de donc l'accès dans le fond va devenir plus facile, et ce que ça soulève comme dans le fond un peu comme obstacle, c'est comment cette connaissance là que les gens vont développer va être prise en compte par les syndicats, par les autres professionnels, par les institutions, par les employeurs, par l'ensemble des intervenants. Parce que on aura avec nous, dans le fond, un bagage qui aurait été développé.
Multiple aussi.
Multiple, soit par le e-learning, par la formation à distance, par la formation en entreprise, des capsules vidéo et
donc, c'est de trouver une certaine façon d'uniformiser toutes ces sources d'apprentissage.
Comment on va faire en sorte pour une personne qui est en position de juger si vous êtes ou non compétent pour exercer une fonction? C'est sur quoi elle va se baser? Et c'est dans ça un peu l'enjeu sur lesquels actuellement les pays européens ou d'autres, comme ici, on se penche pour essayer d'harmoniser des systèmes, de se développer des systèmes, de se développer des équivalences, de faire en sorte, dans le fond, qu'on va se doter collectivement de grilles de lecture, d'outils d'analyse pour faire en sorte de bien évaluer et d'aider les personnes.
Un défi imposant aussi. Un défi imposant. Un enjeu important qu'on va surveiller dans les prochaines années. Ça ne sera pas très court terme, mais quand même, il y a des étapes qui seront franchies. Comme vous parliez du guichet unique, ça sera fait, je crois, en juillet 2013.
On travaille là-dessus. Le plan d'affaires est pratiquement prêt. Donc, l'horizon est pour la prochaine session, si on veut, là, à l'automne. Les choses devraient être pas mal en place. Une nouvelle organisation avec une intégration plus grande de tous ces services-là qui vont être offerts aux adultes de Montréal.
Donc, ça sera surveillé, ce guichet unique qui va donc combiner compétences Montréal et le CERACIM.
Le CERACIM et certifiés compétents, les comités sectoriels, dans le fond, la direction, régionale d'Emploi Québec, les gens qui se préoccupent de l'immigration aussi avec des dimensions de l'évaluation comparative. On va essayer de mettre ensemble l'ensemble de ces services-là offerts.
Bon, donc là-dessus, cette grande thématique, on la résume par une porte d'entrée qui sera accessible à tout le monde à surveiller. Donc, je rappelle, M. Guy Fortier, vous êtes le directeur général de Compétences Montréal et les gens peuvent aller sur votre site pour avoir tous les détails.
Tout à fait. Ou le portail de la reconnaissance.org ou Compétences Montréal, tout ça est mis ensemble.
Compétences.org. Merci beaucoup. D'accord. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci aussi aux autres invités de tous les segments, Mme Rachel Bélisle, Magali Robitaille, Claude Bégin, Christian Gendron, M. Guy Fortier. Et un merci tout spécial à Hervé Dignard de l'ICEA, chargé de projets aux politiques en éducation des adultes pour la recherche. Et bien sûr, l'ICEA, fier partenaire de CIBL pour cette série d'émissions spéciales. Je vous retrouve le mercredi 13 février pour une autre émission. Le sujet, ça sera fracture numérique, fracture scientifique et citoyenneté. Un autre grand sujet pour nous en février. Merci beaucoup aujourd'hui à la mise en onde de Carlo Bellomo. C'était Anne-Marie Kirouac avec vous. Merci beaucoup. Bonne journée et à très bientôt. We'll be right back.